Nathalie Parent, bonjour.
Bonjour, Marianne.
Vous êtes psychologue, je l'ai dit, mais également auteur d'un livre pour grands-parents seulement, un titre quand même assez révélateur en ce qui a trait à notre sujet d'aujourd'hui, Nathalie. Mm-hmm. Les familles ont beaucoup évolué dans les dernières années, donc inévitablement, le rôle des grands-parents également. Qu'est-ce qui différencie principalement le rôle des grands-parents d'aujourd'hui de ceux des générations précédentes?
En fait, c'est beaucoup le fait que les grands-parents sont plus présents qu'ils étaient, aussi dans le sens qu'il y a beaucoup plus de grands-parents pour le nombre de petits-enfants, contrairement à il y a quelques générations où c'était plutôt l'inverse. Il y avait à peu près un, deux, trois grands-parents vivants pour plusieurs petits-enfants. Donc, l'investissement qu'ils ont actuellement, les grands-parents auprès des petits-enfants, il est tout autre. Hein? Ils n'en ont pas 30 à aimer, oui. Ils en ont trois qu'ils doivent partager avec d'autres grands-parents, puis avec d'autres grands-parents aussi de familles recomposées. Donc, c'est beaucoup plus... beaucoup plus complexe en ce sens-là au niveau des rencontres, des activités, des parties familiales aussi.
Est-ce que les grands-parents ont un rôle important à jouer justement au sein de la famille recomposée qui est de plus en plus présente en 2015?
Oui, définitivement, les grands-parents... S'ils sont capables de se tenir à distance des conflits qu'apporte une rupture, une séparation, parce que c'est rare quand même que les séparations se font avec dans le bonheur et l'harmonie. Donc, il y a souvent quand même quelques conflits qui se créent. Puis quand les grands-parents sont capables de se tenir en dehors de ces conflits-là, de rester neutres, ils peuvent apporter vraiment un grand support pour leurs enfants, pour leurs enfants qui se séparent, mais aussi pour les petits-enfants. Mm-hmm. Juste être à l'écoute de ce qu'ils vivent, de ce qu'ils ressentent, de comment ils vivent ça, eux, la séparation, ça apporte énormément. Et puis, c'est sûr qu'ils peuvent apporter aussi du support là, au niveau de l'aide quand il y a une famille monoparentale, ne serait-ce que d'aller garder un temps, une heure, le temps que le parent revienne ou des fois quand le parent a besoin d'une activité, par exemple, et puis que l'autre parent n'est pas là, bien, le grand-parent, s'il peut apporter ça, ce support-là, mm-hmm. d'être présent, c'est une grande aide.
J'imagine aussi que le grand-parent, s'il est capable d'être dans cet esprit d'ouverture, peut favoriser le passage de nouveaux petits-enfants dans sa famille, c'est-à-dire les enfants du nouveau conjoint-conjointe de son enfant.
Oui, définitivement. Puis souvent, par contre, ce que j'ai entendu et ce que j'entends encore, c'est les grands-parents se sentent mal de pas aimer autant ou de façon pareille les petits-enfants et les nouveaux petits-enfants, mais en même temps, le lien se crée avec le temps. C'est normal et c'est sain à la limite de pas être pareil avec chacun des enfants.
Mm-hmm. Mm. Nathalie Parent, est-ce que le grand-parent a un rôle à jouer dans le développement de son petit enfant?
Surtout au niveau de l'estime de soi, je vous dirais. Souvent, les grands-parents vont aimer inconditionnellement le mm-hmm. petit enfant. Hein? Il va voir tout de suite les bons coups que le petit fait. Donc, il n'y a pas nécessairement d'attente. Comme quand on est parent, on a des attentes quand même. Souvent, quand même, on veut que les enfants fassent bien. Hein? On a un rôle éducatif, alors que les grands-parents sont libérés, eux, de ça. Et ils sont là souvent comme admiratifs auprès des petits-enfants. Et ça, ce regard-là admiratif auprès d'eux, c'est très structurant pour l'enfant.
Mm-hmm. Mm. Oui, parce qu'il est vrai que le grand-parent est souvent moins exigeant, que ce soit dans les apprentissages ou dans les comportements. Ça peut apaiser l'enfant, ça, et lui donner une petite pause aussi, de l'éloigner de la performance, du bon comportement à tout prix.
Définitivement. Il y a un exemple que j'aime bien rapporter à ça, c'est le jeune qui joue au hockey et qu'il termine sa partie de hockey puis s'étreint un peu les pieds. Puis le père, il l'accueille, mais de façon, ben là, comment ça se fait que t'as pas fait ça? T'aurais pu faire telle affaire. Et puis là, il critique. Puis là, tu vois le petit garçon que les épaules lui tombent. Et le grand-père qui regarde ça un peu en témoin, puis qui attend que le père termine ses recommandations. Et il arrive par en arrière et dit à son petit-fils, bon, c'est-tu correct? Es-tu prêt là, pour une patate frite? Hein? Donc, c'est un peu ça, le rôle du grand-parent.
Les priorités changent avec l'âge. Hein?
Oui.
Aussi souvent, eh bien, le grand-parent est présent auprès de son petit-enfant, mais peut-être moins stressé, plus disponible aussi que le parent. Mm-hmm. En ce sens, peut-il avoir un rôle à jouer dans l'éducation de son petit-enfant?
Ben, au niveau de l'éducation, c'est sûr que lui, le grand-parent, va davantage transmettre ses passions, ses intérêts. Il sera pas, lui, dans justement exiger quelque chose au niveau de l'éducation. Par contre, je pense que les générations qui ont précédé étaient davantage axées beaucoup plus sur la politesse, hein, faire place aux autres. Ça, je pense que les grands-parents peuvent apporter grandement au niveau des petits-enfants dans l'apprentissage à ce niveau-là.
Oui. J'imagine que le grand-parent peut servir aussi de passeur de valeurs familiales, de mémoire aussi, de souvenirs.
Définitivement. Puis ça rassure et ça répond à un besoin chez l'enfant. Hein? L'enfant a besoin de savoir qu'il appartient à une lignée qui vient de ses parents. Puis quand les grands-parents rapportent des anecdotes, par exemple, de son enfant quand il était petit, puis qui maintenant il est devenu parent, ça fait toujours sourire les petits-enfants, hein? Puis c'est comme si ça permet à l'enfant d'imaginer que son père ou sa mère a déjà été petit,
ouais,
et qu'il a déjà fait des choses un peu comme lui. C'est comme si ça vient y enlever un peu de pression à l'enfant pour dire que, ah ben c'est vrai que mon père, ma mère n'a pas été parfait, il a fait des mauvais tours lui aussi, donc moi aussi je peux être un enfant. Ça vient enlever un peu de culpabilité, je dirais.
Et j'imagine favoriser ou consolider le lien parent-enfant à ce moment-là.
Oui.
Nathalie Parent, vous êtes psychologue. Qu'est-ce qu'on fait quand il y a, je dirais, conflit au sein même des valeurs, c'est-à-dire en ce qui a trait peut-être à l'alimentation ou aux cadeaux, si on l'entend souvent, comment on peut les éviter ou pouvoir aborder le sujet?
Bien, évidemment, quand on a un bon lien avec les grands-parents, quand les parents et les grands-parents ont un bon lien ensemble, l'idéal, c'est d'en discuter, hein, d'en parler, de parler de c'est quoi nos attentes comme parents, c'est quoi les attentes des grands-parents aussi, qu'est-ce qu'eux aimeraient. Donc, quand on est capable d'ouvrir la discussion là-dessus puis de constater les différences, déjà, il y a un conflit qui est moins présent. Juste le fait d'ouvrir sur la discussion. Mais c'est certain que en dernier recours, au niveau de l'alimentation, quand les petits-enfants sont chez les parents, c'est eux qui transmettent les valeurs. Et il ne faut pas oublier aussi que les petits-enfants, ils savent faire la différence. Qu'avec grand-maman, c'est comme ça que ça se passe, mais pas avec maman. Et que quand je suis chez grand-papa, grand-maman, j'ai des droits que j'ai pas chez papa-maman.
Oui. Les enfants comprennent rapidement, je dirais, les changements d'endroit qui vont avec les changements de consignes parce qu'ils sont habitués d'aller à la garderie, à l'école. S'ils viennent d'une famille recomposée, ben, chez papa, déjà chez maman, ça se passe pas de la même façon. Donc, on peut leur faire confiance en ce sens.
Oui, définitivement. Ils vont l'apprendre de toute façon que c'est différent. Puis, c'est pas mauvais de permettre que chez les grands-parents, ce soit différent, hein, puis que ce soit plus léger ou moins sévère, ou encore dans d'autres famille, c'est le contraire. Hein? Il y a des grands-parents qui sont plus sévères sur la discipline à la table, on reste assis. C'est comme ça que ça se passe chez les grands-parents. Puis quand on est parent puis qu'on fait garder les enfants chez les grands-parents, puis qu'il y a une règle ou une valeur à laquelle on tient, bien, si on est capable de l'expliquer le pourquoi, qu'est-ce qui fait que c'est important pour nous, cette valeur-là, souvent, ça passe mieux.
Nathalie Parent, lors du passage de l'adolescence, on fait comment pour éloigner le fossé des générations entre les grands-parents et les adolescents?
Ça, c'est vraiment une question difficile. Pas la question en tant que telle, mais c'est une question qui est souvent posée. Les grands-parents trouvent ça très difficile parce que c'est vrai qu'il y a une distance qui se crée et je pense qu'elle est nécessaire, cette distance-là. Pas qu'on doit, comme grands-parents, rester à distance. Non, je pense que les grands-parents doivent faire l'effort d'aller questionner, de s'informer, de continuer à s'intéresser sur ce que vivent les adolescents, son adolescent. Mais en même temps, il faut retenir que l'adolescent a besoin de se distancier de ça parce que ça, être adolescent, il y a plein d'angoisses qui se vivent, dont l'angoisse du vieillissement et de la mort.
Ouais.
Et donc, c'est souvent là que ça joue, que ça accroche.
J'imagine que le grand-parent, dans ce genre de situation-là, peut devenir également un confident pour son adolescent. L'adolescent ne se confierait pas nécessairement à son parent, mais avec grand-papa, grand-maman, c'est plus facile. En cas de doute ou d'inquiétude, est-ce que le grand-parent doit garder la confidentialité ou exprimer ses craintes aux parents?
C'est sûr que quand il y a un doute, quand il y a quelque chose qui, mettons que le grand-parent a un doute sur ce qui pourrait arriver à l'adolescent, bien à ce moment-là, peut-être de jouer franc jeu avec l'adolescent et dire, écoute, ce que tu me dis, c'est vraiment important, puis je pense que c'est vraiment important que ton père ou ta mère le sache. Est-ce que tu veux que moi, je lui en parle, ou toi, tu veux-tu lui en parler? Mais je tiens à ce qu'un des deux le sache.
Ouais. Donc, encore une fois, d'encourager la communication entre l'enfant et son parent.
Oui, et le lien de confiance, parce que s'il s'est confié aux grands-parents, c'est parce qu'il a confiance. Alors, on ne veut pas briser ça en allant raconter sans lui dire, là, en passant par la bande. Ouais, faut créer l'ouverture.
Nathalie, on en a parlé un tout petit peu, il faut éviter l'ingérence, c'est-à-dire que le grand-parent n'a pas nécessairement à se mêler de l'éducation, de l'alimentation, s'il n'est pas d'accord avec l'éducation que ses enfants donnent aux petits-enfants. Mais est-ce qu'il y a certaines situations où le grand-parent peut s'en mêler, qu'il est en droit de le faire?
C'est sûr que, comme tout citoyen, quand le développement de l'enfant est en danger, qu'il y a négligence, par exemple, ou qu'il y a abus, c'est clair que là, on a le devoir d'agir puis de s'ingérer, là. Ça, c'est certain. Il y a aussi des situations où les grands-parents, quand l'enfant a un problème de santé mentale, bon, je pense à la schizophrénie, des personnalités limites, de la violence, bon, à ce moment-là, le grand-parent a le droit et même le devoir, je dirais, de s'ingérer, de s'immiscer, de faire quelque chose. J'ai vu des grands-parents, justement, agir puis retirer, là, temporairement l'enfant tant que la situation c'était pas placée là. Donc c'est par sécurité auprès de l'enfant, c'est important. Il y a des choses, mais c'est toujours dans des situations plus extrêmes parce que sinon dans le quotidien, quand les familles vont normalement bien en tant que telles, même s'il y a des conflits, des tensions, c'est toujours mieux d'en parler. Puis si on n'est pas d'accord comme grands-parents de ce qui se passe, de comment réagissent les parents, ben peut-être prendre un temps à part quand l'enfant est couché ou qu'il n'est pas là, en tout cas, pour leur en parler. Déjà, ça va mieux passer puis ça ne va pas enlever la crédibilité auprès de l'enfant, là, de ses parents.
Vous diriez quoi à un parent qui vivrait la situation de son parent, c'est-à-dire du grand-parent, le genre de reproche, ah, tu viens pas assez souvent avec les enfants, l'espèce de culpabilité, je me sens délaissée, je me sens seule, j'aimerais ça que tu viennes plus souvent?
Le parent qui dit ça à son parent?
Oui, en fait, le grand-parent qui dit ça à son enfant parce qu'il aimerait voir davantage ses petits-enfants.
Ben, c'est sûr qu'il y a toujours la possibilité de l'exprimer. Déjà, s'il est capable de le dire, je m'ennuie, j'aimerais ça le voir plus souvent, ben c'est ça. Sauf que le parent n'est pas obligé de répondre à ça. Il a toujours peut toujours lui envoyer le fait de que c'est possible d'appeler, hein? Il peut appeler, il peut si les parents sont ouverts à ça, ils peuvent accorder un temps aux grands-parents pour, mettons, leur permettre de passer une fin de semaine avec les petits-enfants. Ça, c'est toujours des moments super appréciés, autant pour les grands-parents que les petits-enfants. Passer un week-end ou une nuit, c'est toujours très apprécié. Mais en même temps, c'est sûr qu'il y a des grands-parents qui en auront jamais assez, hein, de voir leurs petits-enfants qui vont en demander plus, puis c'est comprenable. Bon, sauf que quand le grand-parent est capable de trouver d'autres intérêts que ses petits-enfants, ben déjà c'est beaucoup plus équilibré, il va être mieux là, c'est sûr. Puis les parents n'ont pas le devoir non plus de répondre à ce besoin-là ou à ce désir-là. On peut en tenir compte, je pense que c'est sain, hein, quand on est attaché à ses parents de tenir compte de leurs désirs, mais sans avoir à répondre à tous les besoins, là, évidemment.
Et pour les grands-parents qui sont éloignés de leurs petits-enfants, il y a des outils technologiques comme Skype notamment. Est-ce que ça fonctionne bien pour garder le lien?
Oui, définitivement. Oui, il y en a plusieurs qui se donnent des rendez-vous là vraiment à fréquence régulière sur Skype ou FaceTime là par exemple, puis qui communiquent, qui se voient. Il y en a qui vont garder contact par téléphone, d'autres qui vont s'envoyer régulièrement des mots par la poste. Les enfants aiment ça recevoir du courrier encore quand même. Et d'autres fois, c'est des enfants qui peuvent envoyer des dessins, des bricolages, des choses qu'ils ont fabriquées. Et puis quand le grand-parent l'a affiché dans la maison, ben puis qui sont sur Skype, peuvent promener, montrer ce qui a été affiché, puis les petits-enfants sont souvent très contents de revoir ce qu'ils ont fait sur le mur de grand-papa, grand-maman.
En terminant, Nathalie Parent, on entend souvent l'expression grand-papa, grand-maman, gaga. Est-ce que l'on peut trop aimer ses petits-enfants?
Je pense pas qu'on puisse trop aimer. On peut toujours, hein, aimer, ça se compte pas. Par contre, c'est peut-être plus dans le comportement qu'on peut avoir qui peut ne pas être aidant ni pour le grand-parent, ni pour l'enfant. Si on ne fait que donner plutôt que de valoriser la relation qu'on a avec eux, on passe à côté de peut-être quelque chose d'important.
Et d'essentiel, bien sûr.
Oui.
Nathalie Parent, je le rappelle, vous êtes psychologue, auteure de ce livre pour grands-parents seulement, chargée de cours à l'Université Laval, conférencière et formatrice. Merci beaucoup. C'était un très beau sujet que l'on a pu aborder aujourd'hui ensemble.
Merci beaucoup. Ça a été un plaisir.
Au revoir.
Au revoir.